Bonsoir, comment allez-vous? Chez nous, cette semaine a été marquée par l'enterrement de Pierre Bouteiller. Ce producteur a fortement coloré France Inter, comme Jacques Chancel, José Arthur, Claude Villers, Chris, Daniel Mermet, Evro Djiri, et j'en oublie. Après France Inter, Pierre Bouteiller est allé animer Si bémol et Fadaise sur TSF Jazz. Cette cérémonie qui accompagnait le passage d'un homme de la vie à une autre vie ou à rien, suivant ses croyances, était aussi marquée par l'espace-temps. Il y avait le dedans et le dehors de l'église, l'avant et le maintenant. C'est dehors qu'a résonné son indicatif, musique profane, même si adorée. C'est dedans que nous avons entendu de beaux textes sacrés et privés. C'est dehors qu'ont retenti des applaudissements. C'est dedans que, les yeux fermés, chacun a dit au revoir à son directeur, ami, collègue, mari, papa, voisin, cousin. C'est dehors que se sont retrouvés ce que le temps avait séparé et que Pierre réunissait à nouveau. C'est sur les ondes, qui sont partout, que nous pourrons désormais entendre cette voix qui n'est plus. Non, qui nous a plu. C'est mieux, non? Ça sonne aussi, Pierre voulait toujours que ça sonne.
Bonjour, je m'appelle Célestine et j'aimerais savoir, les gens qui travaillent à la radio, comment leur voix est transmise chez moi, dans ma maison. Merci.
Bonsoir Célestine, tu as un joli prénom, un prénom d'une héroïne dans Belle et Sébastien, et tu as une jolie voix. Comment on peut entendre la voix des gens qui travaillent à la radio chez soi? Thierry Lefebvre, vous enseignez à Paris Diderot, pouvez-vous répondre à Célestine?
C'est très complexe la radio, ça a l'air simple comme ça, on tourne un bouton et on entend le son qui arrive, mais pose la question au technicien qui est en train d'enregistrer nos voix, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il faut apprendre énormément de choses pour travailler dans le domaine de la radio. Donc, on va résumer, on va faire très très simple, comment ma voix arrive jusqu'à tes oreilles. Donc, il faut t'imaginer à ma place. Donc, tu es dans le studio de France Inter et tu es devant un micro. Et donc, oui, le son de ta voix provoque des compressions de l'air. Donc, ça crée des ondes sonores, ce qu'on appelle des ondes sonores, qui sont des ondes mécaniques en pratique. Mais cette compression de l'air, il va falloir la traduire en signal électrique. Tout passe par l'électricité. C'est pour ça qu'il y a un micro devant moi. Ce micro, il va transformer les ondes donc sonores en ondes électriques.
Et le micro est lui-même électrique, il est branché.
Ah oui, bien sûr, il est branché. D'ailleurs, il y a un fil qui va comme ça, je suis le fil, et le fil va jusqu'à la table de mixage où se trouve le technicien. Bien, donc nous avons le signal électrique. Ensuite, ce signal électrique, il va falloir le mettre sur un support pour qu'il vogue dans les airs, comme sur un tapis volant. Donc, ce support, ça va être ce qu'on va appeler une onde porteuse. L'onde porteuse, c'est ce qui correspond à la fréquence sur laquelle tu écoutes France Inter. Donc cette fréquence, c'est l'onde porteuse, on va dire, on fait simple. Et dessus, on va mettre Aladdin, en quelque sorte, c'est-à-dire ma voix, qui va être transportée comme ça. Alors évidemment, il va falloir des intermédiaires, et ces intermédiaires, ça va être l'antenne de France Inter, qui va émettre à distance jusqu'à toi. Ça va être l'antenne de ta radio, que tu ne vois peut-être pas d'ailleurs, elle peut être dissimulée, mais qui va recevoir les ondes de France Inter. Et dans ton poste radio, c'est une machine extraordinaire, ça supprime l'onde porteuse, c'est-à-dire le tapis volant. Il ne reste plus qu'Aladdin, c'est-à-dire moi, qui parle à ton oreille. Voilà.
C'est arrivé quand, Thierry Lefebvre, cette merveilleuse invention?
Elle a été réfléchie, on va dire, à partir de 1906, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis en particulier. Mais elle va véritablement s'imposer au monde en 1920, avec la première station radiophonique au monde, qui est à Pittsburgh, si je me souviens bien, et elle s'appelait KDKA. Alors c'est un nom bizarre, évidemment, France Inter, ça sonne mieux, mais KDKA, parce que c'est des codes, là-bas, aux États-Unis, c'est toujours des codes. Si tu vas, Célestine, aux États-Unis, eh bien, si tu as envie d'écouter des radios, tu auras souvent des codes en quatre lettres. Et en France, c'est en 21, en 22, avec Radio Tour Eiffel et Radiola, qui deviendra une marque d'électroménager, bien connue, mais qui, au départ, est une marque de poste de radio.
Pour le Vendée Globe 2017, 29 sont partis, 18 seulement sont arrivés. Sébastien Destremau est arrivé enfin le 11 mars. Notre ami Quito de Pavan, lui, en revanche, a été obligé d'abandonner dès le début. Son bateau avait heurté un ovni, un objet flottant non identifié. Et maintenant, on sait ce que c'était. C'était un cachalot.
Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 11 ans. J'aimerais savoir ce qui est le plus difficile à vivre dans une course comme le Vendée Globe et si une femme a les mêmes chances qu'un homme.
Quitaud de Pavant, marin. Attention à ce que vous dites, mais cela dit, c'est intéressant parce que dans tous les sports, les femmes et les hommes sont séparés, mais pas tellement finalement dans la navigation.
Oui,
elles font la même course.
Elles font exactement les mêmes courses. Les difficultés sont les mêmes pour un homme ou pour une femme. Et je pense que justement, les femmes sont peut-être mieux armées que nous, les hommes, à faire ce genre de parcours. Mais c'est vrai que les difficultés du Vendée Globe sont nombreuses, puisque c'est un tour du monde. Un tour du monde, c'est déjà très compliqué. Et faire du solitaire, de manœuvrer ces gros bateaux.
C'est physique.
C'est très physique. Et c'est là peut-être le seul désavantage des femmes par rapport à des grands gaillards. C'est vrai que les manœuvres sont très difficiles à faire. C'est lourd. Ça demande beaucoup d'énergie, mais je pense que les femmes vont finalement le faire à leur rythme, d'une manière différente, mais elles vont y arriver quand même.
Et moralement, on est égaux à ce niveau-là ?
Je pense que les femmes ont cette force intérieure de pouvoir résister à plein de choses. On sait très bien qu'elles sont multitâches, alors qu'un homme, il est incapable de faire deux choses en même temps. Donc finalement, je pense que les hommes et les femmes sont capables de faire ce Vendée Globe avec leurs armes, qui sont forcément très différentes. Je pense que les hommes seront sûrement un peu, bourrins, entre guillemets. Ils vont aller plus fort, plus vite, alors que les femmes vont plutôt essayer de réfléchir plus, avoir une trajectoire plus fluide. Surtout dans la façon d'appréhender la gestion finalement de la course, parce qu'il y a une dimension majeure dans ce Vendée Globe, c'est qu'il faut tenir 3 mois. Et ça, je pense que les femmes, on voit Samantha Davis qui fait ça très bien, c'est un bout de femme. On a connu Hélène MacArthur,
oui,
qui devait mesurer 1m50.
Elle était jeune en plus.
Absolument incroyable l'énergie qu'elle pouvait dépenser sur son bateau pour arriver à faire comme les hommes. Je pense pas qu'il y ait plus de difficultés. Il y a les mêmes difficultés, mais qui vont être appréhendées d'une manière très différente.
Et oui, la petite MacArthur, Hélène, elle est arrivée deuxième en 2001. Catherine Chabot aussi a fait le Vendée Globe, aussi Isabelle Autissier. En 20 ans, 7 femmes ont tenté l'aventure et 6 l'ont terminée. Et cette année, c'est la première année où il n'y a pas eu de femmes qui sont parties au Vendée Globe. Quant au cachalot de Quitaud de Pavant, eh bien, Eliane me dit qu'on peut voir la vidéo du choc sur Internet.
Oh toi, dis tout bas, on dansait, on dansait. C'était plutôt inhabituel, alors bien sûr j'en profitais. De bras en bras, les gens passaient, ça n'était qu'un temps court pour se relancer, et puis se remettre à danser. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler, personne quand je me tournais. Au 22 bar ce soir-là, on dansait. Je ne sais plus pourquoi c'était, non, pas plus que les gens qui dansaient. Si par hasard ils s'arrêtaient et ils sentaient de vieux décors se balancer, plusieurs fois manquer de tomber. Et du coup de bras en bras ils repassaient. Alors on se laissait aller au 22 bar ce soir-là. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler, personne quand je me tournais.
Au 22 bar ce soir, chaque fois que je le voyais, je l'appelais puis me cachais. Après tout ce qu'il m'avait fait, j'attendais bon moment pour l'aborder et sentir son sang se glacer.
Le 22 bar, c'était Dominique A.
Les petits bateaux sur France Inter.
Dans les petits bateaux ce soir, donc après la radio et la mer, voici la montagne.
Bonjour, je m'appelle Mère et j'ai 6 ans. Je voudrais savoir comment les montagnes font pour pousser.
Bonsoir Meige. Christophe Vigny, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire de géologie de l'École normale supérieure. Où Meige ira peut-être un jour, sait-on jamais. Comment font les montagnes pour pousser ?
Alors les montagnes, elles ont une vie en fait. Elles commencent par grandir, et puis pour grandir, elles montent. C'est ce que Meige appelle pousser. Comme on dit un enfant qui pousse, il grandit. Et puis à partir du moment où elles sont arrivées à une certaine taille, il y a aussi de l'érosion. Il y a de la pluie qui tombe dessus, il y a du vent qui va transporter des poussières, qui vont frotter, qui vont éroder la montagne, qui vont enlever de la matière. Et du coup, il y a une compétition entre le phénomène qui fait grandir la montagne, on va en parler dans une seconde, et le phénomène qui l'use la montagne, qui l'empêche de trop grandir. Alors, si le phénomène qui veut faire pousser la montagne est très actif, la montagne grandit, elle monte. Et à l'inverse, si le phénomène qui fait pousser la montagne est un peu fatigué, il travaille plus bien, au contraire, c'est l'autre qui gagne, c'est l'usure qui gagne et la montagne rapetisse. C'est presque comme un homme finalement, hein, quand on est jeune, plein de vigueur, on pousse vite et puis à partir d'un certain âge, on se tasse un peu. Alors la montagne, elle fait pareil. C'est à cause de la tectonique des plaques. Qui fait qu'il y a la dérive des continents, qui est due au fait que la planète Terre, elle va besoin de se refroidir, et donc le manteau terrestre est en mouvement perpétuel. Donc les continents bougent à la surface de la Terre tout le temps, et certains continents vont entrer en collision avec d'autres continents. Il y a des endroits où les continents glissent les uns par rapport aux autres, mais il y a des endroits où ils sont en choc frontal les uns contre les autres. Et à ce moment-là, au choc, à l'endroit où les deux continents se rencontrent, il n'y a plus de place. C'est, on imagine, comme deux grands pétroliers qui se rentrent l'un dans l'autre. Ils vont se casser l'un contre l'autre, se déformer. Et la matière qui est là, eh bien, il faut bien qu'elle aille quelque part. Alors, il y en a un peu qui va vers le bas, et puis qui rentre dans la terre. Il y en a un peu qui va vers le haut. Et ce un peu qui va vers le haut, ça fait de ce qu'on appelle de l'épaississement crustal. Et cet épaississement crustal va donner naissance à une chaîne de montagnes.
Épaississement crustal.
Voilà.
C'est ça le nom du phénomène.
C'est le nom du phénomène. Ouais. Le nom un peu savant, la croûte terrestre va s'épaissir. Il y a plein de manières de l'épaissir, un peu différentes. Tout ça, c'est très compliqué. Mais à la base, c'est deux continents qui se rentrent l'un dans l'autre et qui donc, à leur contact, vont épaissir la pellicule de matière qu'ils transportent avec eux. Et cet épaississement, il n'est pas grand. Une chaîne de montagnes, c'est quelques milliers de mètres d'altitude, quelques kilomètres d'altitude, mais souvent, c'est quelques centaines de kilomètres ou même milliers de kilomètres de large. Donc une chaîne de montagnes, c'est facilement 100 fois plus large que haut. Un grand géant qui palperait la Terre avec ses grandes mains, oh ben, il la sentirait presque plate en fait. Hein. Sur des milliers de kilomètres, il n'y a que quelques kilomètres de topographie. Et ça justement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui empêche les montagnes de grandir indéfiniment. La première chose, c'est la force de gravité qui retient la matière, qui l'empêche de monter indéfiniment. Ça pèse une montagne, ça pèse très lourd. Et donc à la fin, quand on a fabriqué une grande montagne, elle a envie de s'enfoncer de nouveau dans la terre à cause de son poids. Et puis ça s'érode à cause de la pluie et du vent. Et à la fin, les plus grandes montagnes à la surface de la Terre, c'est l'Himalaya, qui culmine à 8 km d'altitude.
Merci Christophe Vigny. Peut-être que cette comparaison du grand géant qui trouverait notre Terre presque plate pourrait apaiser ceux qui souffrent du vertige. Tiens, tenez, puisque nous sommes à la montagne, il n'y a pas tellement longtemps, au petit bateau, un enfant a demandé qui décidait des couleurs des pistes. Piste bleue, piste rouge, piste noire, les plus difficiles. Voici à nouveau une question sur le sport et les couleurs.
Bonjour, je m'appelle Quentin et j'ai 12 ans et je voudrais bien savoir comment les Japonais ont choisi les couleurs des ceintures du judo. Au revoir.
Bon anniversaire, j'ai l'impression que le 12 ans est assez récent pour avoir
ça vient d'arriver.
Ça vient d'arriver. Comment les Japonais ont choisi les couleurs des ceintures au judo ?
Eh bien, c'est une très bonne question parce qu'elle n'est pas bonne, cette question. C'est pas les Japonais qui ont choisi les couleurs de ceinture au judo. Il semblerait qu'en 1927, donc, le judo ayant été faire un petit tour en Angleterre, eh bien, que les Anglais aient procédé à une coloration des ceintures. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, au Japon, on a une ceinture blanche, une ceinture marron et une ceinture noire. Et même dans certaines écoles, il n'y a pas de ceinture marron, hein, c'est blanc et noir derrière, il n'y a pas de coloration. Mais les Anglais ont voulu donc, en 1927, voilà, amener un outil pédagogique avec une coloration des ceintures. Et le petit scoop que je peux vous donner, c'est que ce qu'on dit, l'hypothèse, eh bien, c'est que ça viendrait du billard.
Alors,
bien évidemment, la première boule, c'est la blanche, et la dernière à mettre, eh bien, c'est la noire. Donc voilà un petit peu comment ça se serait fait. Et puis aujourd'hui, c'est un système qui marche aussi au Japon, et donc qui a conquis toute la planète.
Quelles sont les couleurs des ceintures, Frédéric Le Canu ?
Eh bien, ceinture de couleur blanche, ceinture jaune, ceinture orange, ceinture verte, ceinture bleue, ceinture marron, et ensuite donc le Graal intermédiaire, ceinture noire, premier dan, et ensuite on peut aller comme ça donc jusqu'au sixième dan où là on va devenir blanche et rouge, et ce jusqu'au huitième dan pour finir, pour très peu d'entre nous, hein, et il y a 9e, puis 10e dan, et là, ça sera la ceinture rouge. Ce sont les grands, ce sont les très, très hauts gradés.
Les habitués des petits bateaux auront reconnu Frédéric Le Canu, ancien judoka de l'équipe de France, conseiller auprès de la Fédération française de judo. Vous pouvez également aller sur le site internet de la Fédération française de judo si vous voulez en savoir plus. Violet was tickling my fancy, gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a Candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved her but we had to let her go. Américaine de 21 ans, Alexandra Sevior, qui nous vient de l'Oregon, à ne pas confondre avec l'origan qu'on met sur les pizzas. Pour poser une question au petit bateau, vous faites le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 10 ans. J'aimerais savoir si les bébés peuvent réfléchir quand ils ne savent pas encore parler. Au revoir et merci.
Merci à toi, Sylvain, qui sait parler et réfléchir. Nous avons proposé ta question à Ghislaine Dehaene. Vous êtes Ghislaine Dehaene, pédiatre et chercheur au CNRS.
Mais heureusement qu'ils réfléchissent avant de parler, parce que comme ils parlent que vers 2-3 ans, ça serait beaucoup de temps sans rien faire. Non, les bébés apprennent beaucoup de choses. Et comment on le sait? Comment on sait, puisqu'ils ne peuvent pas nous dire « j'ai réfléchi à ». On utilise des méthodes où on regarde, où le bébé regarde. Donc on va lui présenter une situation qui l'attend, versus quelque chose de surprenant. Et généralement, quand il voit quelque chose de surprenant, il regarde plus longtemps. Alors, ça nous permet de dire, le bébé a réfléchi et a compris et s'attendait à ce résultat et a fait autre chose. Alors, un exemple. Il a un écran devant lui. Vous faites rentrer un Mickey qui se cache derrière l'écran. Il voit la main sortir. Elle prend un deuxième Mickey. Elle le cache derrière l'écran. Il voit la main sortir vide. L'écran s'abaisse. Et là, normalement, on s'attend à 2 Mickey. Oui. Il y en a 3. Eh bien, on s'aperçoit que le bébé regarde plus longtemps cette situation où il y a 3 Mickey.
Que s'il y en avait 2.
Que s'il y en avait que 2. Donc, on sait que les bébés savent faire la différence entre 2 et 3 et savent même additionner 1 plus 1 égale 2.
C'est quel âge? Le coup des Mickey derrière l'écran, c'est quel âge?
C'est 6 mois. C'est très petit. Alors, par contre, il fait des choses parfois qui sont un peu surprenantes, où on s'attendrait à ce qu'il soit surpris, il ne l'est pas. Par exemple, même écran. D'un côté, il y a un camion qui rentre et qui sort. Donc, de la droite de l'écran, il voit un camion qui rentre et qui sort. De l'autre côté, il voit un canard qui rentre et qui sort. L'écran s'abaisse et il n'y a qu'un objet. Là, il n'est pas surpris.
Ah
quand
bon
il est petit.
Il pense que le canard est monté dans le camion?
Non, il pense qu'un objet, à partir du moment où il voit les deux objets l'un après l'autre, et venant de chaque côté, il ne pense pas que ça peut être deux objets différents. Et ça, faut penser que, effectivement, on a des objets qui se transforment. Par exemple, un ballon de baudruche, il est pas gonflé, c'est une espèce de bout de plastique mou et puis rose foncé. Vous le gonflez, ça devient un grand objet rose clair.
Et ça, il l'admet.
Ça, il l'admet. Et donc, il lui faudra attendre la fin de la première année de vie pour admettre que s'il a vu deux objets différents derrière l'écran, maintenant, quand on abaisse l'écran, il devrait en avoir deux.
Je comprends. Et alors, Ghislaine Dehaene, quand le bébé jette par terre, c'est pour voir si ça va rebondir, si ça va loin, si ça fait du bruit?
Ah oui, c'est un expérimentateur. Exactement, c'est pour voir tout ce que vous avez dit. Il essaye de comprendre et il essaye aussi de voir que ça se réplique, parce que ce n'est pas juste une fois. Ça se fait plusieurs fois.
Ah oui, ça, on avait remarqué.
Et il adore la répétition. Ce qu'on utilise d'ailleurs aussi beaucoup dans nos études, le fait de lui présenter quelque chose qui se répète et de tout d'un coup changer, est-ce qu'il va s'apercevoir qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'on va à nouveau aussi avoir une surprise ou un comportement d'observation qui nous montre qu'il a perçu que ça avait changé? Un camion peut devenir un canard, mais Madame Michu peut pas devenir Madame Bertrand.
Donc les objets se transforment, mais les personnes, non.
Et ça, et donc il y a un développement tout à fait différent entre la perception des objets et la perception des autres humains.
Merci Ghislaine Dehaene. Nous pouvons retrouver tous ces intervenants sur le site des Petits Bateaux, ainsi que les références des ouvrages. Et vous pouvez aussi podcaster cette émission et l'écouter quand bon vous semble. À 22h, le journaliste Patrice Van Hersel vous parlera de l'enquête qu'il a menée auprès de divers penseurs, artistes, philosophes, scientifiques sur la vie intérieure. Nous retrouverons pour un nouveau numéro des Petits Bateaux dimanche prochain à 19h30. Merci à Marjorie Devoucou, Eliane Girard, Marie-Claire Matout et aux garçons Jean-Baptiste Audibert et Gilles Gaillard. Je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulle, mon petit loup.